Alors, je m'appelle, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être là pour écouter et dialoguer avec Michel Schneider. Je m'appelle Jean-Michel Devesa, j'enseigne la littérature à l'Université de Bordeaux et je m'intéresse plus particulièrement à la littérature contemporaine. C'est donc à ce titre que Denis Mola et son équipe m'ont demandé de présenter Michel Schneider et de dialoguer avec lui à propos de son livre « Comme une ombre ». Michel Schneider et moi, jusqu'à ce soir, nous ne nous étions jamais rencontrés. Ma position est donc la position d'un lecteur, c'est-à-dire par définition la position d'un inconnu pour l'auteur, attendu que je suis de ceux qui pensent qu'un écrivain, quand il écrit pour ses lecteurs, il ne les considère pas comme étant des pairs potentiels, mais comme étant des inconnus. Parmi vous, je suis certain que vous êtes nombreux à vous souvenir de quelques-uns des ouvrages précédents de Michel Schneider. J'en citerai au moins deux. En 2003, « Les morts imaginaires », qui a obtenu le prix Médicis de l'essai. Et il y a cinq ans de cela, en 2006, votre « Marilyn, dernière séance », lequel a obtenu le prix Interallié. En cette année 2011, je ne dirai pas que vous nous revenez comme une ombre, mais vous nous revenez avec comme une ombre. Ce roman, qui est installé résolument dans le cadre de la fiction, est construit à partir de l'entrelacement d'une enquête et d'un récit, permettant l'exploration de la relation de votre personnage, Michel Forget, à son frère aîné, plus exactement son demi-frère, Bernard, disparu prématurément à 40 ans, 20 ans après la perte de sa jeunesse, je serais tenté de dire son déniaisement majeur, dans un régiment parachutiste engagé dans les batailles d'Alger et la guerre d'Algérie. Vous posez qu'à la mort de l'écrivain Michel Forget, l'éditeur, ayant retrouvé dans ses papiers intimes et ses manuscrits un dossier contenant deux textes, je vous cite, une sorte de quête ou d'enquête, dites-vous, et l'esquisse d'un roman à la troisième personne, l'enquête étant rédigée à la première personne. Ce sont ces matériaux d'un ou de deux romans ou récits que l'éditeur a réunis en les alternant pour en faire comme une ombre, qui est présentée comme une restitution, une reconstitution. Alors, j'aimerais vous entendre et peut-être dialoguer avec vous à propos de ce rapport au double, de ce rapport au frère aîné. 8 ans séparent les deux hommes, Bernard et Michel, et vous les présentez de la façon suivante. Vous dites « frère double, à jamais non réconcilié avec eux-mêmes ».
Oui, c'est un livre dont vous avez perçu qu'il avait pour moi une certaine nécessité et en même temps que j'ai tout fait pour l'éviter pendant très longtemps. C'est un livre qui m'a poursuivi, si je peux dire, comme une ombre. Entre le point de départ, évidemment autobiographique, qui est ce frère plus âgé de 8 ans qui se donne la mort en 1976, et que j'ai tout fait pour tenir à distance, comme on se méfie des fantômes qui ont la fâcheuse habitude de revenir hanter et nous hanter jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'en débarrasser. L'écriture étant peut-être une manière de, à la fois de tuer les morts et en même temps de leur rendre la paix et de nous rendre la sérénité en leur faisant ce qu'on appelait, dans du Bellay par exemple, un tombeau, quelque chose qui est à la fois un hommage et en même temps une manière de se dire « il est là, il ne fait plus partie de ma vie ». Alors, c'est un roman que je n'ai donc non seulement pas choisi d'écrire, mais pas pu éviter d'écrire à partir d'un certain moment. Et il est né dans des conditions extrêmement romanesques qui sont relatées au premier chapitre du livre. Je faisais une émission à France Culture sur la musique et je citais un morceau de Schumann, l'ouverture de Manfred. Et avec cette association sonore qui s'est toujours imposée à moi, et puis derrière le personnage de Manfred qui est un personnage d'une tragédie de Lord Byron, le personnage de mon frère est revenu, cet homme à à la fois très beau, qui a été mon modèle de masculinité, d'humanité, jusqu'à ce qu'il parte faire la sale guerre d'Algérie, volontaire, en 1956, dans les parachutistes et dans le régiment de Ossarès, qui s'est illustré dans les deux batailles d'Alger et ensuite dans un certain nombre d'exactions, d'actes de torture qui ont été revendiqués. Et ce frère donc part en 1956, revient 3 ans, enfin il fait 30 mois d'Algérie, dans des conditions que l'on peut soupçonner atroces, en revient totalement détruit. Bon, il était déjà pas mal abîmé en partant, hein. C'était ce qu'on appelle une tête brûlée. Issu d'une grande famille bourgeoise, déclassée économiquement mais culturellement vivace, il devient ouvrier à 14 ans, alcoolique, et il n'a d'autre solution que de partir faire cette guerre quand il a atteint 19 ans. Ce frère revient, ne parle jamais de sa guerre, et devient une espèce de personnage fantôme, terrible, terrifiant, à la fois délinquant, alcoolique, misérable, et finit ses jours dans une caravane au fin fond de la France, en se donnant la mort, un petit matin, à l'aube, comme on le fait des condamnés, comme s'il voulait, sans doute inconsciemment, s'infliger à lui le châtiment qu'il pouvait avoir mérité pour avoir fait faire, laissé faire, vu faire des actes barbares pendant la guerre d'Algérie. Et au moment où il meurt, moi j'entame une carrière de réussite universitaire, professionnelle, et je m'éloigne de lui à mesure qu'il s'enfonce. Et je cherche à l'oublier, mais s'il y a des personnes qu'on ne peut jamais oublier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se donne la mort, c'est ceux qui ont choisi de nous quitter de façon violente et qui ainsi s'imposent à nous sous le mode de la culpabilité du survivant. Et puis, je vous dis, ce livre est sorti un peu comme une nécessité de façon accidentelle. Je parlais de ce frère que j'évoquais à la radio, et puis tout d'un coup, quelques jours après, je reçois une lettre d'une femme qui me dit, voilà, je suis un tel, dans le livre je l'appelle Elle, L majuscule, c'est l'abréviation de son prénom, et elle me dit, voilà, et elle me parle pendant 12 pages de mon frère, de son odeur, de sa manière de s'habiller, de sa manière de la regarder, une lettre à la fois d'une beauté atroce et d'une teneur érotique, comme si c'était absolument hier que l'histoire se déroulait. Et elle me raconte cette histoire d'amour, et elle me dit, voilà, si tu veux, j'aimerais en parler avec toi, parce que tu es la seule personne à qui je peux parler de ce frère. Et à ce moment-là, je jette la lettre, je ne veux plus en entendre parler, à la fois, encore une fois, les fantômes reviennent comme ça, 50 ans après, là, presque. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans que, tout d'un coup, je me dis, écoute, cette histoire, il faut la raconter, et si tu ne la racontes pas, personne ne le fera. Donc, j'ai décidé de rencontrer cette femme, et j'ai conduit avec elle un long entretien qui sert un peu de canevas au livre, ce que j'appelle l'enquête, où j'essaye de rassembler auprès des témoins, dont elle qui était le témoin principal, auprès des archives aussi, des bribes pour comprendre le sens de cette vie et de cette mort. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, ce qui est devenu un roman, à partir justement des silences de cette histoire. C'est pour ça qu'il y a des chapitres, le livre est construit de façon qui peut paraître un peu conventionnelle, parce que c'est un procédé littéraire assez habituel. Un écrivain enquête sur un personnage disparu, ou comme dans les films d'Orson Welles, vous savez, dans Monsieur Arcadine ou dans Le Troisième Homme, un homme fait une enquête sur un autre homme dont il cherche à percer l'identité, et puis on se rend compte à la fin que d'abord il ne percera aucune identité, et que ce qu'il a fait, c'est son autoportrait plus que le portrait de l'énigmatique Monsieur X. Le narrateur cherche des traces, des souvenirs, n'en trouve pas beaucoup, et dans les trous de cette mémoire, de ce qu'il ne sait pas, il invente des scènes de romans, d'un roman qu'il pourrait écrire sur ce frère. Alors ce sont des scènes d'enfance, ce sont des scènes de la guerre d'Algérie, ce sont des scènes de la séquence temporelle qui suit le retour du frère. Et j'ai pris soin donc de différencier bien les chapitres de l'enquête qui sont à la première personne, des chapitres du roman qui en sort, encore une fois comme il sortirait des trous des trous de mémoire du narrateur, qui sont à la troisième personne. Et j'ai redoublé cette différenciation en employant des temps du passé pour l'enquête, qui est pourtant la partie la plus récente, puisque le narrateur écrit cette enquête qui vient de se dérouler, notamment avec cette femme rencontrée, et des temps du présent pour ses souvenirs, pour leur donner justement la force d'une hallucination. Nos cauchemars sont toujours au présent, et quand on voit dans nos cauchemars des disparus ou des scènes que l'on revit, c'est toujours avec cette espèce de force extrême du présent. Donc voilà sur le principe de construction, mais qui m'a fait comprendre, et je ne l'ai compris qu'à la fin, que... être romancier, c'est un exercice auquel je me suis livré assez tard, hein, le roman. Être romancier, ce n'est certainement pas écrire ce qu'on a éprouvé, se raconter, dire ce qu'on sait. C'est au contraire dire ce qu'on ne sait pas, et laisser à la fois le lecteur et soi-même, à la fin du roman, dans une incertitude, dans une ouverture, où on ne sait pas plus, et parfois même moins qu'au début, ce qui a pu se passer. Donc c'est pas du tout un roman construit qui prétend dire le vrai sur le vrai, les faits. En ce sens, c'est le contraire d'une autofiction. Je n'aime ni le mot, ni l'exercice de l'autofiction. Je ne prétends pas dire le vrai sur une histoire qui pourtant est vraie, de part en part, mais en même temps totalement reprise dans la fiction et dans l'écriture de la fiction, l'écriture littéraire de la fiction. Donc pas un témoignage, ni même un récit, mais ça ne prétend pas dire autre chose que voilà ce qui aurait pu se passer.
Si vous permettez, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé ce dispositif narratif, parce que précisément, vous évitez l'écueil d'opposer le vécu à la fiction. Et vous utilisez la fiction comme un instrument de connaissance possible, et vous le faites, je dirais, en acte, avec une écriture qui est très efficace. Et vous avez le souci en permanence d'indiquer que parfois, ce que vous nous restituez vous apparaît comme étant de l'ordre du souvenir, mais c'est peut-être tout simplement de la reconstitution. Vous le signalez en permanence. Et je trouve que, de ce fait, votre livre, quitte à vous faire rougir, est un livre savant, mais qui n'est absolument pas, comment dire, didactique, dans la mesure où tout ce que l'on peut savoir sur la vérité que nous voulons dire, mais que nous ne disons pas toutes, parce que les mots manquent, évidemment, vous déjouez ces écueils, vous déjouez ces difficultés, et vous nous racontez l'histoire de votre frère, mais par le biais du roman qui est un instrument de connaissance. Et je trouve que non seulement c'est une réussite, mais c'est un livre qui est formidable de ce point de vue.
J'avais eu la même tentation avec Marilyn, où là aussi je partais d'un personnage réel, de faits, de dates, de lieux ayant existé, je n'inventais rien. Et en même temps, j'ai inventé une Marilyn qui était complètement autre que tout ce que les biographies que j'ai pu lire sur elle en disaient. Une Marilyn qui n'était pas la ravissante blonde idiote que la légende a colportée, mais qui était une fille intelligente, bien que pas cultivée ni scolarisée, mais très intelligente, qui aimait le langage, qui aimait les mots, qui aimait l'écriture. et qu'ensuite on a redécouvert comme si je l'avais inventé. Bon, je crois qu'effectivement, je le disais dans la préface de Marilyn, le seul moyen de dire la vérité sur quelque chose, c'est de l'inventer. C'est pas d'aller chercher dans les archives à coller un réel préexistant. Alors, effectivement, ce principe de construction donne une grande liberté parce qu'on peut prêter aux personnages des images, des mots, des situations, des pensées, des rêves qui ne sont pas forcément dont on ne sait encore une fois rien. Mais c'est quand même toujours sur une énigme, sur un silence que se construit un roman. Moi, j'aime beaucoup Henry James pour ça, c'est-à-dire que bon, la perle, dit-il, c'est ce qui n'est pas dit dans un roman. C'est toujours comme ça. Ça tourne toujours autour d'un secret qui ne sera jamais véritablement et complètement dévoilé. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas arrêter un roman, c'est parce qu'on est à la recherche, en quête d'une vérité. Et en même temps, en sachant qu'au bout du compte, seul le lecteur peut-être saura ce que vous avez voulu dire. Mais quand on se lance dans un roman, moi j'admire les gens qui vous disent « moi j'ai voulu faire un roman sur ceci, et puis j'ai dit ceci, j'ai dit cela ». On ne veut rien du tout. On est dans le noir. L'image qui me vient souvent, c'est que écrire un roman, c'est comme dans ces films, ce film noir américain, je pense au film de David Lynch en particulier, Lost Highway, ou des films comme ça, où on voit des kilomètres d'autoroute ou de route avec les traits de signalisation dans la nuit, et dans le faisceau des phares, on voit à 50 mètres, à 100 mètres, des panneaux qui arrivent, des lieux, des images. Et quand on écrit, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a une visibilité très réduite et on part à la poursuite de ces scènes, à la poursuite de ces dialogues, à la poursuite de ces personnages, mais en ne sachant absolument pas sur quoi on va déboucher. Il vaut mieux ne pas le savoir. Il vaut mieux être poursuivi et poursuivant de ces personnages que les maîtriser comme des marionnettes. Sinon, il n'y a pas de vie dans un roman, s'il n'y a pas d'énigme.
Alors, je vous suis totalement, d'autant que, me semble-t-il, non seulement avec Marilyn, mais depuis votre premier roman, quasiment, vous explorez les mêmes voies. Parce que vos personnages, ce sont des forgés, mais ce sont des faussaires.
Oui. Alors, là aussi, tous les prénoms de cette histoire sont exacts, y compris le prénom du narrateur qui est le mien. La seule chose qui a été changée, c'est le nom de famille, de cette famille de fous qui est décrite dans les premiers chapitres de ce livre, dont sont issus les deux frères qui se trahissent l'un l'autre dans une relation extrêmement violente où l'amour ne peut se dire que par les coups et par la musique, qui est le langage qui lie les membres de cette famille. Et cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un frère qui n'a pas les mots et d'un frère qui les a et qui, lui survivant, se sent tenu d'écrire l'histoire à la fois pour son frère au sens de à la place d'eux et pour son frère aussi au sens de lui rendre quand même un hommage. Mais la quête de la vérité, elle est sans fin, c'est-à-dire que l'horizon recule toujours. Et c'est pour ça que la fin du livre laisse ouverte plusieurs possibilités sur le sens de cette mort, qui dans la réalité, il s'est donné, comme je l'ai évoqué. Mais le sens d'un geste, quel est-il ? On ne peut jamais prétendre le dire, et chaque lecteur y verra une version particulière. Et alors il y a une expression qui revient tout le temps dans ce livre, c'est cette expression très bizarre, c'est un traître mot. On dit « il n'a pas dit un traître mot », ce qui veut dire tout simplement, selon les dictionnaires, il n'a pas dit un seul mot. Et en même temps, pourquoi un traître mot ? Et le portrait que je fais de ce frère, C'est un portrait d'un traître trahi, trahi par la femme qu'il a aimée et qui a ensuite, pour se venger de lui, pris le jeune frère dans une relation amoureuse. Un frère qui a trahi le petit frère qu'il idéalisait en allant faire en Algérie une guerre épouvantable, tandis que le jeune frère restait en France et militait contre cette même guerre, donc il y avait ce décalage. Donc c'est un livre sur la trahison, et j'avais le sentiment que écrire cette histoire était à la fois trahir mon frère réel, et en même temps lui être fidèle. Quand je vois dans les librairies ce livre à l'aventure, ce livre qui, sur la couverture, porte la photo réelle de mon frère réel, Bernard, pendant la guerre d'Algérie, pendant la bataille d'Alger, prise par un camarade de chambre, c'est une photo absolument magnifique, avec un visage d'une extrême innocence et en même temps d'une, où on peut lire l'horreur de ce que ces gamins de 20 ans plongés dans une guerre où ils n'avaient rien à faire et dont ils ne comprenaient rien, ont pu la ressentir. Et je me dis, voilà, voir ce livre dans les librairies, c'est une manière aussi de faire qu'il n'est pas tout à fait mort, en tout cas pas dans l'absence totale de sens qu'a été la fin de sa vie.
Pour faire écho à vos propos, je vais lire un bref passage. Page 222, « Il est temps que j'écrive à mon frère que je l'ai aimé et trahi. On ne trahit que ceux qu'on aime. Si je n'écris pas sa vie, je le trahis, et si je l'écris, ce sera une autre trahison. Je suis son traître, il est le mien, deux faux frères, c'est ça le thème de mon roman. »
Je n'ai rien à ajouter pour ma défense, c'est effectivement un roman sur la trahison, et un roman sur l'amour, dont je pense qu'il est le lieu, le cœur même, ou plutôt dont la trahison est le cœur. J'aurais pu appeler ce roman « Il n'y a pas d'amour heureux », le titre était déjà pris, mais c'est de ça dont il s'agit, y compris le dernier vers d'Aragon, mais c'était notre amour à tous les deux. Sauf que là, c'est une histoire d'amour entre deux frères, et entre ces deux frères et la même femme qu'ils ont partagée, qui est cette femme énigmatique et belle qui est au milieu du livre, et que l'un fait parler de l'autre pour lui arracher ses ultimes secrets. Donc oui, cette trahison, qu'il s'agisse de la trahison amoureuse ou de la trahison politique ou de la trahison des idéaux de l'adolescent que j'étais, on ne trahit jamais que ce qu'on aime. Est-ce que ça aurait un quelconque intérêt de trahir quelqu'un qui on est indifférent, un étranger absolu? Non, on ne trahit que ce qu'on aime, et d'une certaine façon, on est amené à aussi nécessairement, à un moment ou à un autre d'une relation d'amour, à trahir cet amour lui-même, parce que le temps nous trahit nous-mêmes. Et enfin se retrouve l'amour, puisque je crois que ceux qui nous ont trahis gardent plus de place dans nos cœurs que les autres. C'est peut-être d'une grande injustice, mais c'est en tout cas un fait que j'ai pu observer.
Ce qui est certain, c'est que dans les deux personnages, Bernard et Michel, les deux sont construits dans votre texte comme... en miroir, ce sont vraiment le reflet spéculaire de l'un et de l'autre. L'un et l'autre se torturant, se tourmentant pour savoir s'il l'aime et s'il est aimé de lui, en permanence.
En permanence, oui. C'est d'où le titre « Comme une ombre », bon, qui fait référence quand même beaucoup au romantisme allemand et au romantisme français. Nerval est présent entre les lignes, mais et Musset, dont le poème « La nuit de décembre » est l'exergue du livre, puisque ce poème « Cet étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère et qui venait s'asseoir », etc. Bon, au départ, le titre d'ailleurs du livre, c'était « Comme un frère », puisque le poème de Musset, c'est « Qui me ressemblait comme un frère ». Et puis, l'éditeur a constaté que le titre était déjà pris par plusieurs livres, donc on a choisi comme nom. Mais je trouve ça beaucoup plus poétique, plus ramassé, plus énigmatique. Parce qu'effectivement, l'ombre, qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est ce dont on ne peut jamais se séparer. Sauf à en mourir.
Alors précisément, l'un et l'autre, dans cette quête spéculaire, pour savoir s'il est aimé et s'il aime l'autre, me semble-t-il, les deux personnages, Bernard et Michel, butent contre la réalité de cet amour. Et cette réalité de cet amour, c'est la mort.
C'est un amour qui ne peut pas se dire autrement que, effectivement, dans le silence. Le frère aîné est très brutal avec le jeune frère. Enfin, j'en ai ajouté, j'ai durci le trait parce que c'est plus romanesque de faire des personnages qui sont brutaux, sadiques, que des personnages qui sont en demi-teinte. Mais le moyen de communiquer, c'est effectivement de faire entendre la musique au jeune frère et de le frapper avec des coups qui sont symboliques ou réels, des sales coups. Et en même temps, le frère aîné s'adresse toujours à son petit frère en lui disant « petit con ». Ce que le frère met 50 ans à comprendre, c'est que « petit con », c'était un mot d'amour, d'une certaine façon. Évidemment, on préfère parfois qu'il y en ait d'autres. Mais voilà, c'est l'histoire entre eux d'un amour certain, mais d'un amour destructeur et autodestructeur et destructeur.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du rapport très étrange que l'un et l'autre entretiennent avec la mère, avec Marthe ?
L'un et l'autre, bien que n'étant pas de même père, sont de même mère, et leur mère, parmi les six garçons qu'elle a mis au monde et la fille, leur mère... a désigné toujours dans la légende familiale ses deux fils-là comme ses enfants préférés. Oui. Donc il y avait déjà cette rivalité autour d'une mère et avec elle aussi le premier flux de à la fois d'amour, de violence, de haine, parce qu'il y a des conflits terribles là-dessus entre la mère et les deux frères, et c'est la musique. C'était cette famille, il y avait je dirais alcoolisme et musique à tous les étages. C'était bon. La mère en question appelait d'ailleurs sa propre maison la roulotte, par référence à Cocteau qu'elle adorait, et donc aux parents terribles, et toute une thématique quand même de folie, de toxicomanie dans cette histoire dont on aurait pu, si j'en avais la force et le talent, tirer. Au moins une demi-douzaine de romans russes, vu la complexité des liens familiaux. Mais ce qui faisait lien entre tous, c'était la musique. Alors c'était pas la même pour les uns et les autres, c'est pas le même instrument, mais c'était quand même le langage dans lequel on pouvait exprimer les émotions, les sentiments, l'amour, la haine aussi.
Il me semble que les deux frères... Jérôme Garcin l'a dit dans Le Nouvel Observateur, les deux frères partagent les femmes et ils partagent aussi la mère.
Ils partagent la mère, oui, oui. Il y a une espèce de rivalité, là aussi, de connivence, d'avoir été les préférés et d'être devenus l'un et l'autre, ce qu'il est convenu d'appeler des hommes à femmes, c'est-à-dire, effectivement, avec une mère extrêmement séductrice, extrêmement séduisante, qui fabrique dans un cas le frère aîné un pauvre R qui finit mal, et dans l'autre qui m'a donné, malgré toute la formidable haine qu'on peut accumuler parfois contre une mère qui vous a précocement séduit, si on peut dire, je ne serais pas écrivain, moi, Michel Schneider, je ne serais pas écrivain sans cette mère qui m'a fait lire, quand j'avais 11 ans, Dostoïevski, Flaubert et Proust quand j'en avais 14. Alors je comprenais rien, rassurez-vous, mais C'est quand même à elle que je dois d'être devenu un homme de mots, mais c'est probablement aussi à elle que mon frère Bernard doit d'être devenu un homme de silence et de perdition.
Concernant Bernard et Michel, vous venez de dire homme à femme. Dans le livre, le narrateur souligne que les hommes à femme sont généralement des hommes pour lesquels le père a manqué.
Oui, c'est une phrase comme ça qui m'est venue de je ne sais où. Ça fait bien. C'est comme ça, hein, le roman, ce que je disais tout à l'heure. Le roman ne vient pas d'un savoir que vous allez partager avec une grande leçon de philosophie avec le lecteur en disant voilà. La jalousie, c'est ceci, la trahison, c'est cela, l'amour, c'est encore ceci. Bon. Cette phrase m'est venue, les hommes à femmes sont souvent des hommes sans père. Il se trouve que dans l'histoire familiale que je rapporte, et Bernard et Michel n'ont pas pour père le mari officiel de la mère, que j'appelle Laurent Forget, mais ont des pères différents, mais qui étaient l'un et l'autre des amants. Donc, les deux enfants sont ce qu'on appelait à l'époque des enfants adultérins, ce qui doit s'appeler toujours des enfants adultérins, mais pas de même père, et en tout cas, ni l'un ni l'autre, du père officiel. Ce qui crée quand même certaines distorsions dans la perception à la fois familiale et sociale du lien fraternel et du lien de filiation. Donc voilà, il y a effectivement un père absent qui meurt dès la première page. Pour moi, ce père réel, qui s'appelait bien Laurent, mais pas Forget, est mort quand j'avais 4 ans, et quand mon frère Bernard avait, lui, 12 ans, donc sa mort l'a certainement beaucoup plus marqué que moi, et y compris dans une identification très pathologique à la guerre, à l'uniforme. Ce père était militaire.
Il en fait un héros, d'ailleurs, à la fin du roman.
Il en fait un héros. Il imagine que ce personnage, qui devient pour lui son mythe personnel, un héros, et il essaie de communiquer à son frère cette espèce de délire, parce qu'il est pris dans des délires d'alcoolique à la fin de sa vie. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai imaginées, parce que... Une des raisons de la culpabilité qui me dicte aussi ce livre, c'est que je ne suis pas allé le voir quand je le savais, dans la déréliction la plus totale, la misère la plus noire, au fin fond de sa caravane, pendant les dernières années de sa vie.
Bernard a vendu son arme, il a donc vendu aussi son âme en Algérie.
Oui, ça c'est un épisode que m'a raconté cette femme, qui est allé le rejoindre quand il était encaserné à Blida, en Algérie, et qui n'a pas pu le voir parce qu'il était en prison pour avoir, dit-il, perdu son arme, son pistolet mitrailleur. Bon, ce qui, en temps de guerre, même si ce n'était pas une guerre officiellement, est un crime qui vous vaut le conseil de guerre immédiatement, mais bon que... je ne sais quelle indulgence ça a été requalifié en faute et il a fait juste quelques mois de prison supplémentaire. Et la légende dit qu'il a en fait pas perdu son arme mais qu'il l'a vendue, alors soit à ceux qu'on appelait les Fellahs, les rebelles, le FLN, soit aux gens de l'OAS, puisque ça se passe en 1959, au moment où les Français d'Algérie commencent à être déçus par la politique de Gaulle, donc qu'il aurait vendu son arme pour permettre à cette femme de prendre un billet d'avion et de venir, mais je n'en sais rien, elle dit le contraire tout en disant cette légende qui est assez belle, de dire que voilà, un homme en guerre vend son arme pour faire venir une femme, enfin c'est presque Carmen quoi.
Un mot peut-être sur cette sale guerre et sur la façon dont Bernard peut-être l'a vécu.
Peut-être. Je prends bien soin de dire que tout ça, c'est l'imagination qu'un romancier peut construire autour d'un personnage, puisque quand j'ai regardé les archives militaires, les archives familiales, évidemment, dans les archives militaires, on trouve les affectations, les régiments, les opérations, et encore, mais on ne trouve certainement pas les actes de torture ou les villages brûlés. Oui, je peux penser que vu où il était, au moment où il était et dans quel régiment, il n'a pas pu ne pas être témoin, voire acteur, d'un certain nombre d'horreurs et qui se lisent dans son destin par la suite.
J'ai été, non pas surpris, mais très touché par ce que vous dites de la guerre et du mal. Il y a notamment une page dans laquelle vous soulignez la beauté de la guerre.
Oui, alors ça, c'est une page qui ne va pas me valoir beaucoup de louanges de la part du politiquement correct. Je pense, pour en avoir parlé avec ceux qui l'ont vécu, Dieu merci, moi j'ai été épargné par les guerres. Ceux qui l'ont vécu disent deux choses. Ils disent que c'est les occasions où on a été pris dans une guerre sont des moments où l'on se sent vivre avec une intensité absolument exceptionnelle, parce que tout simplement on sait que ça peut s'arrêter à la prochaine rafale ou à la prochaine éclat d'obus, et que ça donne un sens de la beauté de la vie qui peut s'échapper à tout moment, qui est d'une acuité, d'une force extrême. Se sentir vivant à ce point-là, disent-ils, ça n'existe que, et encore, dans l'acte amoureux, où l'on a le même sentiment d'être soi. Sauf que dans la guerre, ce qu'on touche à ce moment-là, c'est effectivement le sentiment d'être vivant, mais est-ce qu'on existe comme une personne ou est-ce qu'on existe comme un rouage de l'univers, un rouage de fer et de sang, un animal pris au piège, c'est une autre question. Et donc je prête effectivement à Bernard cette espèce de regard rétrospectif où il dit mais... dans la guerre, il y a une beauté de la nature, du feu, je dirais presque du sang, qu'on retrouve, je ne sais pas quoi, dans le film de Coppola, Apocalypse Now. Évidemment, il y a des gens que ça choque de mettre la chevauchée des Valkyries pour dévaster un village au napalm. Il n'empêche que c'est un spectacle. Qui peut émouvoir le sens d'une beauté, une beauté qui est tragique, humaine et inhumaine, mais une beauté des éléments, des couleurs, des... Voilà, donc c'est une hypothèse que je fais. Hein.
Pour illustrer votre propos, je me permets... Il y a une page et demie, mais je ne vais pas lire une page et demie, je vous rassure. Juste pour illustrer votre propos, cette beauté. Vous écrivez « La guerre, que vous le vouliez ou non, c'est aussi la beauté. Elle dessine votre corps qui n'était dans la paix qu'une ombre confuse et déchirée. Elle le rend plein, tendu. Dans la pire horreur, vous admirez la terrible majesté des combats, les lignes entrecroisées des balles traçantes, la lune impassible sur les oliviers et les pierres d'une colline, la symétrie fluide des deux colonnes remontant la côte à contre-soir, le mystère du lever du soleil, l'illumination des obus de mortier, le feu orange et pourpre du napalm dévastant un village, puis gagnant un bosquet qui flambe dans la nuit à une vitesse incroyable en un cramoisi fastueux. Vous êtes comme l'enfant devant l'arbre de Noël. » Alors, l'autre chose à propos de laquelle j'aimerais vous entendre, c'est la question du mal. Parce que Bernard, comme d'autres jeunes gens qui avaient 20 ans, avoir 20 ans dans les Aurès, ces jeunes qui avaient 20 ans ont été confrontés au mal, ils ont été témoins de ces horreurs, de ces atrocités. Nous avons tous en mémoire le récit d'Henri Alleg, hein, la question. L'on a peut-être le souvenir du film de Pontecorvo, la bataille d'Alger. Il y a eu donc cette confrontation, peut-être l'implication d'un certain nombre d'entre eux dans l'exercice du mal. Et là encore, à un moment, d'une manière subtile et brève, vous dites que le plus terrible, peut-être, n'a pas été d'être témoin ou de commettre ces crimes, mais d'y éprouver du plaisir.
Oui, je pense que c'est ça le mal. C'est pas de... Quand ces gamins sont arrivés, qui étaient souvent des fils de paysans, qui débarquaient dans une guerre dont ils ne comprenaient pas le sens et qu'on les avait envoyés faire à 20 ans, la plupart d'ailleurs se sont... Enfin, beaucoup se sont opposés hein, au départ. Il y a des manifestations sur les voies ferrées pour ne pas partir à Marseille. Il y a des manifestations à Marseille pour ne pas s'embarquer. Et puis quand ils arrivaient là-bas et qu'au bout de 3 mois ou de 3 semaines... il retrouvait au matin un camarade déchiqueté par au couteau par des rebelles, je veux dire, ou par une rafale de mitrailleuses, immédiatement le sens du bien et du mal, de qu'est-ce qu'on fait là, et au nom de quoi, et de quelle valeur, s'estompe complètement. On se dit simplement, j'appartiens à un camp. C'est mes copains, c'est mes frères, et ceux d'en face sont mes ennemis. À ce moment-là, il n'y a plus de bien et de mal. Il y a ce qui me fait du mal, je dois l'éviter, et je dois tuer pour ne pas être tué. Ça devient absolument hors toute morale. Et cependant, le sens moral, moi je l'espère, ne disparaît jamais complètement de l'âme humaine. Et je crois que c'est ce qui rattrape effectivement à la fin de la vie de ce frère, c'est ce qu'il rattrape et il se donne la mort au fond pour sachant que c'était peut-être le châtiment qu'il méritait et ce qui témoignerait d'un sens moral plus grand que celui de ceux qui ont survécu. Mais je lui fais dire cette phrase en effet que le plus difficile, c'est pas d'avoir, enfin le plus horrible, c'est pas d'avoir commis des horreurs, c'est d'y avoir pris du plaisir, c'est de ne pas avoir su s'en arracher et les refuser.
Si vous me permettez, Bernard, Michel aussi, l'ensemble des protagonistes de ce roman semble pétri de noir, pétri dans le noir.
Oui.
Tous.
Oui, ça, c'est pas...
Sans exception.
Ça, si vous attendez un roman de gare ou un roman de plage, c'est vraiment... Vous êtes trompé d'adresse. Non, c'est... Oui, c'est un roman qui est assez sombre. Il y a peu d'échappées de lumière. Mais c'est une avancée dans les ténèbres de l'amour. C'est pas une histoire désespérée parce qu'il y a quand même l'amour du jeune frère se manifeste par le récit même qu'il fait de la vie de cette femme et qui elle donne au livre une couleur une flamme maintenue comme ça à travers le temps. C'est pas noir.
Alors, ce n'était pas un reproche ni une démarcation de ma part, mais absolument pas de réserve. Il me semble que ce qui sous-tend le récit, c'est la conviction que la vie n'est qu'une mort à crédit. Je ne vous sens pas désespéré, mais je trouve que le ton est mélancolique, c'est-à-dire...
Mais tous mes livres, j'ai quand même qui s'appelle Morts imaginaires, qui n'est pas du tout sinistre, parce que je ne pense pas que la mort soit en tant que telle une chose sinistre. Effectivement, j'ai écrit 2 livres sur Schumann, qui est compositeur mélancolique par excellence. Bon, c'est... mes thèmes sont mélancoliques, mais je vous assure que... je m'arrange pour ne mettre ma mélancolie que dans les livres et pas dans ma vie. C'est probablement le seul moyen que j'ai trouvé pour l'éviter au jour le jour, de me plonger dans la nuit quand j'écris un livre. Et il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement étrange récemment pour me débarrasser de ce livre. J'étais à New York où j'ai fait une interview de Philippe Roth et j'ai commencé là-bas un roman pour effacer celui-là, parce que ça m'angoissait, c'est très angoissant la sortie d'un roman. J'ai commencé un roman que j'ai intitulé Comédie américaine, Comédie new-yorkaise. Et j'ai commencé à faire un roman très léger, un peu inspiré de Philip Roth, parce que je suis assez mimétique. Bon. Et puis, j'écris quelques pages, une trentaine de pages, comme ça. Alors, c'était léger, des dialogues assez aiguisés, des personnages d'une génération qui n'est pas la mienne, sur un ton un peu de comédie cruelle. Et puis, au bout de 30 pages, tout d'un coup, tout est remonté, l'espèce de chape de mélancolie. Les personnages commençaient à dériver dans le tragique, dans la noirceur la plus extrême, avec, là encore, une femme entre deux hommes. Bon, comme quoi, on écrit quand même toujours un peu le même livre, hein, quel que soit le thème, le décor, la période. Et deux, ben, on n'échappe pas, on écrit quand même avec... avec son être, on n'écrit pas avec ce qu'on sait ou ce qu'on voudrait.
Si vous en êtes d'accord, peut-être nous pouvons nous tourner vers la salle et vers l'assistance. Alors, mesdames, messieurs, si parmi vous, quelques personnes souhaitent interroger Michel Schneider, je leur cède la parole.
Madame.
Ça a exacerbé vos angoisses.
Ah non, je suis apaisé. C'est quand même le fait d'avoir pu donner une forme à cette espèce d'angoisse latente dont je ne voulais pas l'affronter. Hein. C'est pas une question de courage. L'image qui me vient et que je reprends dans le livre, c'est le passé, quand il est aussi traumatique, c'est comme un chien furieux qui vous attaque dans le dos, et on dit que le seul moyen d'intimider ce chien, c'est certainement pas de fuir, c'est de lui faire face et de le regarder vraiment droit dans les yeux, et qu'à ce moment-là, on peut espérer s'en débarrasser. Donc le passé, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné où il faut se retourner et dire, bon, ça a eu lieu, et c'est le seul moyen pour que ça ne revienne plus vous hanter. Donc oui, ce soulagement existe. Alors l'angoisse, elle s'est déplacée sur autre chose. C'est est-ce que le livre va avoir l'écho que je souhaite? Est-ce qu'il va rencontrer son public? Est-ce qu'il va parler à d'autres gens qu'à moi? Mais ça, c'est des angoisses qui sont quand même très supportables par rapport à ce qui vous vient d'une histoire familiale aussi lourde.
Un autre intervenant, peut-être? Non. Souhaitez-vous peut-être dire quelques mots?
Non, je...
Alors, moi je me permets de vous dire que je l'ai lu il y a 3 semaines, et je l'ai lu cette nuit, avant de vous rencontrer, et il se trouve qu'en ce moment, je travaille autour... d'un essai que je voudrais consacrer à Jacques Chessé.
Oui.
Et Chessé, à plusieurs reprises, parle de la jalousie qu'il éprouve en lisant de bons livres. Ben, je peux vous dire que ce matin, j'ai éprouvé deux choses. D'abord, l'envie de lire ce livre à mes étudiants, ils en ont bien besoin parce qu'ils brillent par leur absence ce soir. De lire de longs passages de votre livre à mes étudiants, notamment sur ce qu'est l'écriture, la position de l'auteur, etc. Et puis, il m'a semblé que dans ce livre, je ne pouvais qu'en être jaloux, non pas envieux, mais jaloux, parce que notamment j'ai retrouvé l'Algérie. Je n'ai pas de frère, je suis fils unique, mais j'ai retrouvé un certain nombre de choses, et votre livre m'a profondément parlé. Voilà, je voulais vous dire cela et vous remercier.
Mais c'est moi qui vous remercie, vous et vous.
Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et si vous le désirez, vous pouvez demander une signature à Michel Schneider. Merci pour votre attention.